Dans ce livre-là, je me propose de faire comprendre certains pièges liés à nos éducations. À force d'avoir appris à être bien gentil, à être sage, à être raisonnable, nous entrons dans un piège qui peut amener à la violence. Et je nous invite à voir que nous avons souvent pris l'habitude de ne pas oser dire non, de ne pas oser dire quand on est triste, de ne pas oser dire quand on est en colère, de ne pas oser dire quand on est en désaccord et de dire oui, oui, tout va bien, alors que nous pensons rien ne va plus. De dire bien sûr, je reviendrai avec plaisir chez vous, alors que nous pensons ah non, plus jamais chez eux. Et nous portons ainsi un masque de gentillesse, de façade, qui n'a rien à voir avec la vraie bonté, avec la vraie générosité, et qui a un effet pervers, c'est qu'à force de rentrer les frustrations à l'intérieur de nous, c'est un peu comme si nous les mettions dans une sorte de cocotte minute, et la cocotte minute a un couvercle, qui sont nos conditionnements familiaux, sociaux, éducatifs, scolaires, professionnels ensuite, et le couvercle est bien serré par-dessus, mais attention que le phénomène n'est pas statique, il est dynamique, la cocotte est posée sur le feu du temps qui chauffe, et tôt ou tard, la cocotte explose dans la violence sur les autres. Qui ne se sera pas trouvé dans l'attitude de dire « ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase ». Et c'est intéressant d'observer la mécanique, c'est que nous disons à l'autre « tu es la goutte qui fait déborder mon vase ». Mais qui est responsable de mon vase, si ce n'est moi? Est-ce que c'est pas moi qui ai à vérifier, tiens, il y a des gouttes qui s'accumulent. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a du désaccord que j'arrive pas à dire, j'ai besoin d'apprendre à formuler, ça m'appartient cette affaire. Et si tout d'un coup il y a un stimulus extérieur, ce n'est qu'un stimulus extérieur. Il y a une sorte d'hygiène de conscience à développer, et il est rare que nous ayons appris les clés de cette hygiène de conscience-là. Alors si la cocotte minute peut exploser de façon agressive, et si sans doute beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître d'avoir été parfois pris dans des colères qui vont au-delà de ce que la circonstance justifie, il peut arriver que les conditionnements soient trop forts et que la cocotte n'arrive pas à exploser, et la cocotte implose dans la dépression, dans la maladie, dans le burn-out. Et là, peut-être nous pouvons comprendre certains enjeux de la dépression. Si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, eh ben tôt ou tard, je déprime. Il y a un aspect mécanique à cette affaire-là. Ce n'est bien sûr pas la seule explication de la dépression, mais pour avoir accompagné pas mal de personnes comme thérapeute dans les enjeux de la dépression, je peux voir que c'est souvent trait à des sentiments qui ne sont pas exprimés, des colères, des désaccords, des tristesses, des désarrois, des moments de doute, des peurs bien sûr, mais aussi des parties de soi qu'on a du mal à exprimer. Une fantaisie, une curiosité, une fragilité ou une force. Une intuition qu'on a du mal à mettre en route. On veut être gentil, ne pas déranger, et donc on fait comme tout le monde. Et ce processus fait que, à force de réprimer, on déprime. Comment je vous parle de ce sujet-là? Pourquoi est-ce que j'ai exploré cet enjeu de cesser d'être gentil, soyez vrai? C'est que mon premier métier était d'être avocat. J'ai tenté de contribuer à la résolution des conflits comme ça. Et assez vite, je me suis rendu compte que quand le conflit arrive devant l'avocat, ben, la plupart du temps, il est le fruit d'un malentendu. Et si j'observais le malentendu, je constatais que la plupart du temps, il était le fruit d'un mal exprimé et d'un mal écouté. Quelqu'un n'avait pas clairement exprimé ce qu'il veut, ses besoins, en faisant des demandes claires. Il avait exprimé des critiques, des reproches, il avait dit ce qu'il voulait pas. L'autre en face, n'ayant pas entendu des besoins et des demandes claires, mais ayant entendu des critiques ou des reproches, n'avait donc pas bien écouté, au contraire, s'était mis à s'enfuir ou à répondre en retour sur le même ton. En agressant en retour, mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Et je me suis rendu compte que comme juriste, j'étais en aval du phénomène du conflit et que ça me coûtait beaucoup d'efforts que de tenter de réparer avec des solutions juridiques des enjeux qui avaient surtout trait à l'expression de soi et de l'écoute de l'autre, de la compréhension des enjeux d'émotion de part et d'autre. Ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est que tout en étant juriste, je me suis occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans dans une association que peut-être certains d'entre vous ont connue, qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait Flics et Voyous. Et j'étais un des animateurs principaux de cette association. Et en m'occupant de jeunes de la rue, j'ai pu me rendre compte que leur comportement de violence extériorisé, je t'agresse, je te taque ton mur, je te balance un pavé dans ta vitrine, je te pique ton sac à main, je te plante un couteau pour te piquer ton portefeuille, ou la violence intériorisée, je pars dans la drogue, les médicaments, la dépendance au jeu, etc., ou les automutilations, la prostitution, violence extériorisée ou violence intériorisée, il s'agit d'un tragique manque de discernement, conscience, et vocabulaire pour nommer ce qui se passe en moi, mes sentiments de colère, de désarroi, de solitude, d'impuissance, de révolte, et mes besoins d'appartenance, de soutien, de compréhension, d'encouragement, de tendresse, bien sûr, d'amour, d'être aimé, d'aimer, et bien sûr, de sens. Faute de discernement et de vocabulaire pour nommer ce qui se passe en moi, la vie bouillonne, et il faut bien que ça sorte par quelque part. La plupart du temps, ben, ça explose dans l'agression sur les autres, ou ça implose dans l'agression sur moi. Et en les voyant faire, ces gamins-là, je me suis dit, moi, garçon de, disons, bonne famille, famille bourgeoise, tradition chrétienne, diplôme de droit en main, je suis pas plus outillé qu'eux pour parler de ce qui se passe en moi. Quand dans une relation amoureuse, ça va pas bien, je sais dire les quatre vérités de l'autre. Tu me pompes l'air. Ça, je savais dire. Mais je savais pas dire, écoute, j'aurais besoin d'un peu d'espace quand je rentre de du travail, est-ce que tu veux bien me laisser une demi-heure en silence pour que je me retrouve un peu moins, et puis je t'écoute. Je savais pas parler de moi, gentil que j'étais, il fallait s'occuper des autres. J'étais piégé, alors la violence sortait par des mots, pas par des coups quand même, j'avais reçu un peu d'éducation pour ça, mais je réalisais que c'était la même misère pour exprimer les enjeux de ma vie intérieure, exprimer ma colère avec des mots qui la fassent bien comprendre et qui permettent à l'autre de contribuer à mon bien-être, plutôt que de s'enfuir ou d'agresser en retour. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'aller explorer les enjeux de la mécanique humaine en entrant moi-même en thérapie. Et quand j'ai commencé quelques semaines de thérapie, j'ai découvert l'incroyable liberté de prendre du champ sur l'inconscient, de sortir de mécanismes dans lesquels je tournais sans même me voir. Or, vous savez peut-être, on peut pas sortir d'un piège tant qu'on sait pas qu'on est pris dedans. Si on sait pas qu'on est pris au piège, on continue comme ça toute sa vie durant. Ça nous demande un peu de lucidité, de se dire, tiens, est-ce que c'est le seul fonctionnement, ça? Est-ce qu'il y aurait pas d'autres fonctionnements? Est-ce que je pourrais faire autre chose que de tourner en rond? Ça demande un peu de recul, un peu d'intériorité, constater qu'il y a peut-être un piège, que ce que je prends pour un espace de liberté est peut-être un enfer. Un enfermement dans mes habitudes de fonctionnement. Et ce qui peut se révéler infernal tant pour moi que pour les autres. Alors, je me suis rendu compte que j'avais moi-même envie de partager cette prise de conscience, de quitter la vie de juriste, pas d'un coup bien sûr, j'avais besoin de cette ressource financière, mais de petit à petit me former à la psychothérapie pour moi-même devenir psychothérapeute et aider les autres à sortir de leurs pièges, quitter leurs enfers, pour retrouver une liberté et une vie plus joyeuse d'abord pour eux, mais parce que s'ils sont plus joyeux, c'est plus joyeux pour les autres aussi, il y a un enjeu communautaire. En sortant de notre dépression, de notre victimite, de notre amertume, eh bien nous devenons des citoyens plus joyeux. Alors je me suis bien rendu compte en terminant « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qu'effectivement être vrai avec soi, c'est-à-dire arrêter de se faire du cinéma, vous savez, arrêter de se dire « tout va bien », alors qu'au fond à l'intérieur il y a une petite voix qui dit « mais non, rien ne va plus, regarde bien ». Et moi je me suis longtemps entretenu là-dedans, comme avocat gentil, gagnant bien ma vie, avec des beaux costumes et des belles bagnoles, une belle bagnole, je sais pas la collection. Je me suis longtemps menti à moi-même en disant ben tout va bien, j'ai besoin de rien d'autre, j'ai une appartenance sociale, j'ai de l'argent pour partir en vacances, de quoi je me soucie. Et je me suis menti, j'étais gentil. À l'intérieur, il y avait une petite voix que j'étouffais qui disait non, tu n'es pas heureux, tu ne déploies pas tes talents, tu ne fais pas de bon usage de qui tu es vraiment. Tu te conformes à une norme, tu te coules dans un moule pour ne pas déranger, pour faire plaisir, pour acheter l'appartenance, l'intégration, la reconnaissance, mais c'est pas toi. Pas facile d'entendre ça. Ça n'est pas confortable de se dire, tiens, tout ce que j'ai mis en place, qui est quand même un certain résultat, un assez beau succès, tout ça, c'est pas vraiment moi. Oh là là, on préférerait dire, mais non, tout va bien, ce serait plus confortable. Et donc, je me suis rendu compte qu'être vrai avec soi, ça n'est pas nécessairement confortable. Mais comment voulez-vous être heureux si vous vous mentez toute votre vie? Puis être vrai avec les autres. Dire aux autres les désaccords en disant, écoute, là, franchement, je suis pas d'accord. C'est pas pour être contre toi, c'est pour clarifier un enjeu dans notre relation. Là, je suis en colère et j'ai besoin de te dire ma colère. C'est pas pour t'ennuyer, c'est pas pour t'attaquer, c'est que je tiens à toi, je tiens à nous, je souhaite que nous fonctionnions bien. Si je te dis pas ma colère, j'entre dans un mécanisme de cocotte-minute et à un moment, je te couperai la tête. Donc je préfère te dire ma colère à temps, en sorte qu'on l'aménage. Ça n'est pas nécessairement confortable de partager sa colère à l'autre et de le faire de façon constructive, une colère bénéfique, une colère constructive. Mais comment voulez-vous être heureux dans la relation si vous taisez ce qui se passe en vous? Si vous dissimulez la vérité de ce que vous ressentez? C'est pas possible, vous ne serez jamais heureux. Nous ne pouvons être heureux qu'en étant vrai, mais c'est pas nécessairement confortable. Et enfin, sur un troisième axe, qui est après la relation avec soi, la relation avec l'autre, la relation avec la vie, avec l'univers, ou Dieu, vous appelez cette troisième dimension comme vous voulez, selon votre vocabulaire ou votre cheminement, peu importe. De nouveau, être vrai avec la vie telle qu'elle se passe, être ouvert aux événements, être en ouverture plutôt qu'en résistance, être en existence plutôt qu'en résistance, être en accueil de ce qui vient plutôt qu'en opposition à ce qui vient, c'est pas nécessairement confortable. Une partie de nous veut s'opposer à ce qui va mal. Au lieu de se dire, tiens, ça va mal, mais pourquoi ça va mal? Qu'ai-je à apprendre de ça? Comment est-ce que je peux me remettre en question? M'adapter, transformer mes fonctionnements, revoir mes habitudes de pensée, quitter mes enfers, me ment. Ça n'est pas nécessairement confortable, vous l'aurez bien perçu. Et alors, je me suis rendu compte que nourrissait en moi la matière d'un deuxième livre. Dans la continuité de Cessez d'être gentil, soyez vrai, me venait ce thème-ci, être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. En nous invitant, comme dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, à un apparent paradoxe. C'est clair qu'en disant Cessez d'être gentil, soyez vrai, je n'encourage personne à être méchant. Au contraire, je souhaite que tout le monde développe des rapports de véritable courtoisie, de véritable générosité, de véritable bienveillance. C'est vraiment le thème de mon livre, c'est développer de la bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Mais vous l'aurez peut-être observé, être vraiment aimant vis-à-vis de son ado, c'est parfois lui dire très clairement non. Et il vous dira, t'es pas gentil. Non, mais je t'aime. C'est parce que je t'aime que je dis non. Dans un rapport de couple, pouvoir dire clairement à l'autre « Stop, là franchement ça va au-delà de ce que je peux supporter », c'est pas gentil, mais c'est sans doute bien nécessaire par preuve d'amour. Donc, il y a souvent une confusion entre la vigueur d'une attitude qui nous fait croire qu'elle est violente alors qu'elle est simplement vigoureuse et saine et juste et justifiée et pleine d'amour. Donc je me suis rendu compte de l'inconfort et j'ai écrit « Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable » pour faire de nouveau une sorte de paradoxe. Effectivement, être heureux, tout le monde espérerait que ce soit tout confort et qu'il n'y ait plus de soucis et que ce soit vraiment une aisance. C'est une illusion dans la vie de croire que tout va toujours bien se passer et qu'on va être dans un état constant de bien-être. Nous allons inévitablement rencontrer l'alternance. Des moments de joie, de confort, d'enthousiasme, de sérénité, des moments de peine, de doute, de peur, de colère, d'impuissance, de solitude. C'est une sorte de parcours. Et l'alternance dans notre vie n'est ainsi pas un accident, mais un ingrédient. C'est l'ingrédient même de la vie. Et la grâce d'exister consiste à trouver l'attitude du surfeur qui surfe sur les mouvements de la vague pour trouver l'élégance de son survol. Si le surfeur résiste à la vague de droite et puis à la vague de gauche, il sera vite coulé. C'est parce qu'il va avec qu'il glisse. Dans nos existences, si nous résistons à ce qui nous affaire, à ce qui nous arrive, si nous résistons à ce qui nous arrive, nous coulons. Nous ne sommes pas du tout aussi forts que la vie. Par contre, si nous accueillons ce qui vient dans la vie, il y a de la colère, j'écoute la colère, j'essaie de la comprendre et je l'utilise pour me transformer. Il y a de la joie, je m'en nourris, je m'en inspire, j'y pompe ma vitamine, en sorte de pouvoir affronter la peur qui viendra plus tard. Et quand de la peur, je m'assois avec ma peur, je l'écoute, je tente de la comprendre. Mais qui fait ça? Qui nous a dit quand tu as peur, assieds-toi avec ta peur, écoute-la, et goûte son essence, elle te renseigne sur toi. Elle est un chien de garde qui dit attention. Mais c'est pas elle qui commande ta vie, c'est juste ton chien-chien. Quand tu as écouté ta peur, tu dis au chien-chien, coucou, va dans ton panier, c'est moi qui dirige. Mais ça suppose une maîtrise, une écoute, qui n'est pas nécessairement confortable. Puis comment voulez-vous être heureux si vous apprenez pas à dire non, si vous dites oui tout le temps? C'est impossible. Mais apprendre à dire non, c'est pas nécessairement confortable. Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on me fera une place? Le gentil en nous a tendance à dire oui et à dire beaucoup oui, quitte à s'écrouler sous le fardeau des engagements. Alors, plutôt que de nous épuiser, nous aurons sans doute l'apprentissage à faire d'apprendre à dire non à temps et à la bonne personne. Enfin, un enjeu inévitable de nos vies, c'est les deuils. Le deuil, c'est pas juste la perte d'un être cher. Il y a toutes sortes de deuils à faire. Le deuil de l'enfance, le deuil de la jeunesse, le deuil de la force physique, le deuil peut-être de la beauté. Mais le deuil de tranches de vie, le deuil de lieux qu'on a aimés, le deuil de personnes qu'on a chéries et qu'on ne voit plus. Le deuil de pages d'existence que l'on tourne. Si je suis pas capable de faire le deuil de ce que je quitte, je n'irai jamais nulle part. Pour pouvoir aller quelque part, ça demande que j'ai lâché ce que je quitte. Et lâcher, ça demande un renoncement conscient. Pardonnez-moi. Ça demande qu'avec tout mon être, j'ai accepté que ça, c'est terminé, ça s'en va. Et ça comporte de la tristesse, ça comporte peut-être de la colère, ça comporte peut-être de l'amertume, mais ça fait partie d'un processus vivant dans lequel j'ai envie de demeurer. Si je m'accroche à l'automne, je ne connaîtrai jamais le printemps. Curieusement, nous sommes familiers de cette alternance dans la vie extérieure. Personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne. Nous savons que cette saison est nécessaire pour défaire, permettre à la nature de se ressourcer. Et dans nos vies psychiques, il y a des automnes. Chacun d'entre nous aura vécu des moments où, tiens, tout se défait, je perds mes repères, c'est plus mes habitudes, mon conjoint, mes enfants, ma famille, mon métier, mon travail, tout ça, où l'une après l'autre se disloque. Alors nous avons l'impression d'être amenés à notre tronc, comme la forêt dans l'automne, tout dépouillé. Et la tragédie dans nos vies psychiques, c'est qu'on se dit, il n'y a qu'à moi que ça arrive, cette affaire. Je suis tout seul à vivre ça. Et puis, bien sûr, dans la nature, il y a l'hiver, et nous savons que cette saison est nécessaire. Elle permet à la terre de se régénérer, elle permet au labour de s'émietter, et aux insectes en surnombre d'être tués par le gel. C'est une saison nécessaire, l'hiver, pour ressourcer. Dans nos vies psychiques, il peut y avoir des traversées d'hiver. Ça nous arrive. Plus rien ne bouge. Pas de tendresse, pas d'amitié, pas de sens, pas de vision. Le brouillard. Mais rappelons-nous de nouveau, de mémoire d'homme, il n'y a pas d'hiver qui n'ait débouché sur un printemps. Alors la tragédie dans nos vies, c'est que quand l'hiver s'installe, nous disons, je suis seul à vivre ça, tous les autres vont bien, personne ne connaît l'hiver, il n'y a que moi à qui ça arrive. Ce qui est vraiment l'illusion la plus tragique, non seulement de souffrir, mais de croire qu'on est le seul à souffrir. Alors nous éveiller à la présence, à la souffrance, ça nous permet de comprendre que bien des êtres souffrent. La plupart des êtres passent par tous ces cycles de la vie. Et si nous arrivons à veiller avec suffisamment de conscience, de patience dans l'hiver, eh bien tôt ou tard nous verrons qu'émergent des pousses comme maintenant dans la saison, les crocus, après les personnages et maintenant bientôt les jonquilles. Tout d'un coup, ça apparaît, très modestement. Ça ne sort pas d'un coup, c'est discret, c'est modeste. Eh bien dans nos vies psychiques aussi, nous pouvons sentir, si nous veillons avec suffisamment de confiance dans l'hiver, que tiens, tout d'un coup, il y a un peu d'air frais qui arrive. Tiens, il y a une perspective qui s'ouvre. Tiens, la lueur, la lumière change. Et si nous sommes attentifs à ces petits signes de l'arrivée d'un renouveau, tôt ou tard, nous ne pourrons manquer de goûter un été dans notre vie psychique. Alors, voyez, c'est pas nécessairement confortable, la vie psychique. Ce sont des cycles et des saisons. Plus j'intègre ça, plus je le célèbre. Je le vis comme une joie d'être un être vivant en mouvement et non pas une statue fixé sur un socle. Et c'est ça le thème de mon deuxième ouvrage. Être heureux, c'est pas nécessairement confortable. Je nous propose de visiter une série de pièges, il y en a à peu près 7 ou 8, qui nous empêchent l'accès au bonheur. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut pas sortir d'un piège tant qu'on sait pas qu'on est pris dedans. La plupart des êtres humains ne savent pas qu'ils sont piégés dans des attitudes anti-bonheur. Parmi ces pièges, ou à côté des pièges, j'ai identifié deux vaccins qui nous inoculent une immunité anti-bonheur. Il m'a fallu longtemps pour l'identifier, mais quand j'étais moi-même en thérapie, je me demandais, mais pourquoi est-ce que quand les choses vont bien, quand dans une relation amoureuse les choses sont belles et pourraient peut-être se concrétiser vers un engagement plus durable, pourquoi est-ce que quand tout va bien, je sabote, je casse le truc. C'est comme si je m'autorisais pas à goûter le bien-être durablement. Un petit peu, bien sûr, parce qu'il faut survivre. Mais durablement, oulala, c'est dangereux. Il risque d'avoir un retour de manivelle. Je vais avoir à payer l'addition. Et donc, il vaut mieux que je sabote moi-même. Comme ça, je commande. J'auto-sabote. Après, en étant moi-même thérapeute, j'ai rencontré tellement ce mécanisme de sabotage. Tout être humain cherche le bonheur, bien sûr. Il cherche pas autre chose. Mais la plupart du temps, nous sabotons l'accès au bonheur par toutes sortes de mécanismes. Eh bien, comme une sorte de vaccin inoculé par une injection, une sorte de petite injonction vient nous inoculer le vaccin anti-bonheur qui dit ceci, on n'est pas là pour rigoler. Petite phrase que souvent nous aurons entendue, ou en tout cas comprise dans la culture ambiante. La vie est une dure lutte, faut se battre, c'est comme ça, on sera heureux plus tard à la retraite, et encore on n'est pas trop sûr avec ce que les gouvernements nous proposent, mais peut-être au paradis pour ceux qui envisagent cette perspective. Mais en tout cas là, on n'est pas là pour rigoler. Dans cette vision, le bonheur est comme interdit, inutile de l'espérer, subissons. Bon, s'il s'agissait juste de subir, bon, ça irait, on serait malheureux, mais ce serait simple. Il se fait que les vaccins viennent souvent en deux injections. Il y a souvent deux piqûres. Et il y a une deuxième injonction qui vient contrecarrer la première et qui dit, à côté de « on n'est pas là pour rigoler », oui mais, faut être heureux quand même avec ce qu'on a, on n'est pas les plus malheureux. Alors dans la première version, on n'est pas là pour rigoler, le bonheur est comme interdit. Dans le deuxième, il est comme obligatoire, faut se réjouir. On a quand même à manger tous les jours et on n'est pas en guerre. entre le bonheur interdit et le bonheur obligatoire, je nous propose de voir qu'il y a de quoi être schizophréné, si vous me permettez cette expression. Et heureusement, nous ne sommes pas tous schizophrènes. Cependant, je crois qu'effectivement, notre accès au bonheur est comme schizophrénique. Nous le cherchons parfois désespérément et en même temps, c'est nous-mêmes qui le sabotons. Nous avons autrement dit en nous toutes les capacités à faire notre bonheur, mais nous ne les voyons pas ou nous ne voulons pas les voir. Et il m'a fallu longtemps, moi, pour trouver les clés du bonheur, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pas nécessairement confortable d'aller chercher à l'intérieur dans sa boîte à outils, mais ça permet d'aller petit à petit à un palier de conscience infiniment plus joyeux, et dont je voyais que le bénéfice n'était pas seulement de me rendre individuellement plus joyeux, ce qui est déjà pas si mal, mais qu'il était contagieux. Et ça m'a fait réfléchir quand être heureux n'est pas nécessairement confortable est sorti et que j'ai commencé à animer des stages et des formations. C'est aussi mon métier d'animer des stages et formations sur les thèmes en question. Je réalisais que la personne qui s'implique dans un travail de pacification devient un être pacifiant. Je réalisais que la personne qui s'implique dans un travail d'appropriation, de fréquentation de son ombre, vous savez les parties de nous qu'on n'aime pas trop voir, mais qui entrait dans ce travail en acceptant d'aller voir son ombre, eh bien s'ouvrait à accueillir l'ombre de l'autre avec bienveillance. Et enfin, et c'est pas des moindres, je réalisais que la personne qui entre à l'intérieur de soi pour savoir qui elle est derrière le personnage que chacun a, construit par nos familles, nos éducations, etc., le personnage un peu conditionné, sans doute inévitable, qui est la vraie personne que je suis, l'être unique que le destin, la vie, l'univers ou Dieu, vous appellerez ça comme vous voulez, a mis au monde là. Qui est cet être unique? La personne qui rentre dans ce travail de connaissance de soi et qui s'ancre ainsi, au-delà de son petit ego, dans son élan de vie, dans son élan d'être, eh bien j'observais que cette personne devient un citoyen créateur, tourné vers les autres, engagé dans des projets, je dirais, à dimension sociale. Et je nous propose de voir... C'est le thème de mon dernier ouvrage. Qui fuis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous? Vers l'intériorité citoyenne. Je nous propose de voir que nous pouvons aujourd'hui réconcilier ces deux notions, l'intériorité et la citoyenneté. Deux notions qui se tirent la langue depuis des siècles. Il y a, dans notre conscience collective, l'intériorité d'un côté, pour ceux qui se soucient de cela. Chacun fait ce qu'il veut de façon philosophique, laïque, religieuse, spirituelle. C'est du domaine privé. De l'autre côté, il y a l'engagement citoyen, les droits et les devoirs, l'appartenance aux communautés, et ça, c'est l'extérieur. Et c'est comme si c'était clivé. Eh bien, je réalise que de plus en plus d'êtres humains aujourd'hui réalisent bien que devant les enjeux du monde que nous connaissons, et on peut les résumer en gros à 4 enjeux, l'écroulement du mythe de la croissance économique exponentielle, l'écroulement du mythe que l'on puisse puiser de façon illimitée dans les ressources par nature limitées, la fracture économique croissante entre ceux qui ont de plus en plus et ceux qui ont de moins en moins, qui, outre l'injustice, comporte le risque que ceux qui n'ont plus rien à gagner dans cette course n'aient aussi plus rien à perdre et commencent à le faire valoir. Et enfin, le risque d'écroulement de plusieurs systèmes écologiques irréversibles, avec impossibilité de les rattraper. Devant ces 4 enjeux-là, pour les résumer à cela, il y en a d'autres, eh bien de plus en plus d'êtres humains réalisent que nous n'allons pas changer notre rapport à l'extérieur sans d'abord revisiter notre rapport à l'intérieur. Nous n'allons pas par miracle respecter les ressources, là-bas, sans respecter la ressource intime. Et nous n'allons pas tout d'un coup, par enchantement, respecter la nature sans apprendre d'abord à respecter notre nature intime. Et qu'il s'agit donc vraiment d'un travail d'intériorité, de compréhension de soi, ce qui n'est neuf en rien. Socrate nous disait déjà, connais-toi toi-même. Et l'on oublie souvent la deuxième partie de la phrase, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'univers, c'est-à-dire la Terre, la planète, le cosmos, ce grand système dans lequel tu es physiquement en appartenance. Tu vas connaître cette dimension si tu travailles sur toi. Mais tu connaîtras aussi le sens, les dieux, la transcendance, le sacré, la dimension de sens, de finalité qui habite cet univers. Tu vas cesser d'être scotché à l'immédiat, à ton petit ego, à tes petits enfers, moments. Alors c'est pas rien comme travail que d'apprendre à se connaître, à se responsabiliser, à se dévictimiser et à s'ouvrir ainsi à la connaissance des autres. Je vous propose une petite histoire qui est je raconte dans ce livre-là pour montrer l'enjeu de, d'intériorité citoyenne. Et pour montrer que le fait d'apprendre à se coltiner un peu avec soi et avec son ombre, et à travailler ses conflits intérieurs, à trouver les processus de réconciliation qui existent, ça n'est pas nécessairement confortable, mais c'est libérateur. Eh bien, je raconte l'histoire de Charlotte. Charlotte a 20 ans quand elle arrive en thérapie. Charlotte vient de faire 2 tentatives de suicide dont par chance elle a réchappé. Elle est complètement en dépression. Charlotte est une belle personne à tous égards, elle est jolie physiquement, mais elle est belle intérieurement, elle est pleine de générosité et c'est une grande artiste. Sa générosité la pousse à vouloir s'occuper des malheureux dans le monde et elle voudrait partir pour s'occuper de Médecins sans frontières. Mais à côté, elle est une artiste extraordinaire et elle voudrait développer son art. Elle sait bien qu'elle a un talent particulier. Alors quand elle part dans son rêve de travailler pour Médecins sans frontières, c'est fantastique, elle va aider les gens, ce sera merveilleux, mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Alors c'est pas grave, je reste à Bruxelles et je fais ma haute étude de peinture et de dessin, je deviens une grande artiste, je ferai des expositions, ce sera magnifique, mais est-ce pas un petit peu égoïste de s'occuper de son petit pinceau alors qu'il y a tant de misère dans le monde? Elle est déchirée, elle est tétanisée, elle est écartelée, Charlotte, elle sait pas quoi faire, il y a trop de pression, elle est sous pression, la seule façon de quitter cette souffrance, c'est de la supprimer en se suicidant. Heureusement, elle échappe aux tentatives de suicide. Et quand elle arrive en thérapie, elle me dira « Je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. » Et ceci peut nous éclairer sur une difficulté à bien vivre lorsque nous n'accueillons pas la puissance de vie qui est en nous. Depuis plus de 20 ans que j'aide des personnes, que j'accompagne des personnes, à commencer par les gamins de la rue, j'ai cette profonde confiance qu'il y a une énorme puissance de vie très généreuse, très créatrice au sein de chacun d'entre nous. Que cependant, nous n'avons pas appris à en faire bon usage. Comme Charlotte. Charlotte est tiraillée entre de très belles parties d'elle, mais n'a pas reçu les clés de la réconciliation intérieure. Elle est pourtant d'un niveau intellectuel aisé, ses parents tous les deux médecins, elle tradition catholique, donc avec quand même une certaine pratique du recul, de l'intériorité, mais pas de clés de réconciliation, de compréhension de soi. Le travail avec Charlotte va consister à tenter d'écouter toutes les parties d'elle, sans en privilégier aucune, mais tenter de voir comment est-ce qu'on va trouver une troisième voie pour ne plus être déchiré entre d'un côté l'humanitaire et de l'autre côté l'artistique. Et le processus que je propose est donc un accompagnement, une écoute qui permet de discerner et que faire que les choses petit à petit permettent une troisième voie. Je ne fais pas la thérapie ici, je ne vous relate pas toute la thérapie de Charlotte, mais ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui Charlotte est art-thérapeute pour enfants, si aujourd'hui Charlotte a appris à utiliser son talent particulier d'artiste au service d'une cause sociale et humanitaire, si aujourd'hui Charlotte a un métier à ce point citoyen, aider les gamins qui sont un peu perdus, qui ont du mal à se concentrer, qui s'agitent un peu trop, à se poser, à se centrer, à se concentrer et à développer leur élan de vie, si Charlotte a une telle activité citoyenne, c'est qu'elle a travaillé son intériorité. Je ne sais pas ce qui serait arrivé à Charlotte si elle n'avait pas ouvert les portes de la compréhension de son intériorité. Alors je nous propose de voir qu'elle a une ressource extraordinaire et que effectivement, quand le doute, la difficulté ou le deuil, l'épreuve se présentent dans nos vies, ce dont nous manquons la plupart du temps, ça n'est pas de ressource, c'est juste d'accès à la ressource. La ressource est là et il suffit d'en trouver les clés. Et effectivement, dans cet ouvrage-là, je propose quelques clés que j'appelle les processus d'ouverture de cœur et de conscience, en souhaitant qu'un jour, ces processus soient enseignés dans toutes les classes pour que chacun apprenne le manuel d'utilisation de l'être humain, plutôt que simplement l'histoire, la géographie, les mathématiques, sans décrier ses branches, bien sûr. Mais il me semble quand même fondamental que tout être humain ait appris son propre fonctionnement, en sorte de se placer au bon endroit, d'être un être joyeux, heureux, connaissant ses talents et les mettant à disposition de sa communauté. Je suis aujourd'hui frappé, et je donne beaucoup de conférences. Hier, j'étais à Paris la semaine passée en Suisse. Sur ces thèmes-là, je suis frappé de voir combien aujourd'hui, alors qu'il existe tant d'outils d'ouverture de cœur et de conscience, tant de processus pour se rencontrer, se connaître, faire les deuils, transformer sa vie, déployer ses talents, je suis vraiment frappé de voir combien d'êtres humains continuent de se résigner à vivre une vie qui ne leur convient pas. Et plutôt que de tendre vers un bonheur croissant et généreux, ils se maintiennent dans un petit malheur supportable. Par ignorance, ne sachant pas que tant d'outils existent. Alors, Je suis heureux de pouvoir en faire connaître certains par mon travail et encourager les personnes qui souhaitent s'éveiller à d'autres façons d'être au monde à chercher, parce que les outils existent aujourd'hui et nous sommes certainement invités à travailler sur nous dans cette conscience. C'est le thème de ce dernier livre, qu'en faisant un travail de développement dit personnel, c'est le mot, eh bien à mes yeux, nous faisons bien plus que du personnel. Pour moi d'ailleurs, il n'y a plus de développement personnel. Je crois profondément que la personne qui s'implique avec assez de rigueur et de profondeur dans un travail de connaissance d'elle-même s'implique au fond dans un travail de développement social durable. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enjeu de la misère du monde n'est pas un manque de ressources. Il y a bien assez de ressources pour nourrir tout le monde. L'enjeu de la misère du monde et de cette fracture économique tragique est un enjeu de répartition des ressources. Et que de nombreuses études prouvent que les ressources sont accaparées par des mécanismes mis en place par les possédants pour se sécuriser du fait de leurs angoisses existentielles. Et que donc la fracture économique qui divise le monde est l'expression d'un manque complet d'intériorité de gens qui ne savent pas trouver la paix par l'intérieur, mais qui possèdent en accaparant pour se sécuriser par l'extérieur. Est-ce qu'un peu de travail d'intériorité pour trouver la paix dans son cœur ne rétablirait pas un meilleur équilibre sur notre planète ? Est-ce que l'intériorité ne serait pas citoyenne ? C'est la question que je pose dans ce dernier ouvrage. Voilà le petit cheminement que je vous propose depuis cesser d'être gentil, soyez vrai, en passant par être heureux, c'est pas nécessairement confortable, jusqu'à trouver une réponse personnelle et vivante à ces petites questions qui fuis-je ou cours-tu, à quoi servons-nous ? Qui permettent d'envisager que le travail d'intériorité sert notre vie communautaire. Voilà le parcours de mes trois ouvrages que j'ai eu le grand plaisir de partager avec vous.